La discrimination en ruralité, c'est beaucoup plus violent. On passe beaucoup plus vite à la violence physique, verbale et sexuelle. Parce que les gens qui agressent se sentent protégés, en fait, par le fait que la personne soit isolée. D'ailleurs, c'est le premier truc qu'elle va tenter de faire, c'est d'isoler encore plus la personne. En essayant de convaincre l'entourage proche d'adhérer à la discrimination. Donc voilà, on a vu des personnes homosexuelles, qu'elles soient lesbiennes ou gays, être obligées de déménager de chez elles à cause des voisins.
Bienvenue chez Bretonne Breton et Féministe, le podcast qui explore les féminismes en Bretagne et décentralise la parole. Rendez-vous tous les 15 jours pour un entretien ou un reportage au micro d'Aurélie Fontaine. Aujourd'hui, pour ce 44e épisode, nous allons discuter avec Laurane, qui est la secrétaire de l'association CUBE, QUB, pour Queer Unis de Bretagne. Le siège de cette toute nouvelle association est basé à Morlaix, dans le Finistère. Et avant d'être une association, CUBE était constitué en collectif, le collectif LGBTQI+, de Morlaix. Ce collectif a été créé en janvier 2022, au sortir du Covid, avec l'objectif d'écouter, d'orienter et de sensibiliser sur un territoire qui s'étend de Lannion à Roscoff, en passant par Huelgoat. Pour cela, l'association organise notamment des groupes de parole, mais aussi des accompagnements individuels, notamment sur la transidentité et les parentalités LGBTQI. Avec Laurane, nous allons parler en particulier de soutien et d'accompagnement des personnes LGBTQI en milieu rural. Comment on fait, en fait, dans des petites villes, dans des villages, comment on fait pour socialiser à égalité en comparaison avec les personnes hétérosexuelles? Et comment on fait pour trouver du soutien aussi quand il y a peu d'espace pour parler? Laurane m'expliquait par exemple qu'au sortir du Covid, il n'existait plus d'associations actives entre Brest et Rennes.
Les gens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient beaucoup de routes. Il y avait des gens de Morlaix ou des gens de Lannion qui allaient à des groupes de parole à Quimper ou à Lorient ou à Rennes avant qu'on arrive. Et c'était la seule possibilité de sortir de l'isolement. Du coup, les personnes bougent beaucoup. La preuve, il y a des gens qui sont sur la côte et qui n'hésitent pas à venir. Il y a des gens de l'Andivisio qui viennent à nos groupes de parole, qui viennent à des entretiens. Voilà, on a des gens de Lannion qui viennent et qui n'hésitent pas parce que, justement, il n'y a rien, pas de structure. Et du coup, qui cherchent un endroit où elles peuvent parler de, justement, tous les problèmes de vie qu'elles rencontrent. Il n'y avait plus d'association officielle, de structure officielle. Par contre, il existe des collectifs queer féministes dans le centre Bretagne, principalement, qui agissent. Mais du coup, comme ce sont pas des structures officielles qui n'ont aucun accès aux droits et qui permettent pas de travailler ou difficilement avec des structures d'État. Nous, on est nés de ces collectifs féministes queer et nous sommes quelque part un relais. En devenant une association, une structure officielle, on devient un relais pour eux et on fait le lien puisque eux, ils récupèrent aussi des personnes et du coup, ils nous préviennent quand ils ont besoin d'un appui au niveau des structures et nous, on fait de l'orientation et de l'accompagnement, que ce soit pour les personnes trans dans leur transition, quelle qu'elle soit médicale, qu'elle soit sociale ou familiale. En un an, on a déjà accompagné 15 personnes avec une accélération depuis le mois de janvier sur les questions de la transidentité, de la parentalité, LGBTQI, sur des problématiques familiales, donc des conflits familiaux, d'acceptation, de coming out auprès de la famille. Moi, bien entendu, je fais beaucoup d'accompagnements médicaux pour les personnes transgenres, sachant que l'association est adhérente du REST, qui est le réseau santé transgenre de Bretagne. Une association qui réunit les associations LGBTQI et des professionnels de santé du territoire breton et qui est en train de s'ouvrir en fait sur tout le reste de la France et donc qui nous permet de questionner des problématiques, de demander des médecins puisqu'on est aujourd'hui, il manque énormément de médecins et plus particulièrement sur les questions LGBTQI, il faudrait former le personnel médical. On souhaite former du personnel médical autour de nous, de telle façon à trouver des personnes ressources et d'envoyer les personnes LGBTQI vers du personnel médical formé et qui auront un accueil bienveillant, non jugeant de ces personnes-là.
Et puis qui seront du coup sur le territoire et où il n'y aurait pas forcément besoin d'aller dans des grandes villes, quoi.
Voilà, parce qu'aujourd'hui, ils sont obligés de faire des centaines de kilomètres, ils sont obligés d'aller à Lille, ils sont obligés d'aller à Lyon pour être suivis. On défend l'idée d'un cabinet médical, donc avec les autres associations du Finistère, d'un cabinet médical qui sera capable de prendre les personnes LGBTQI de manière safe et bienveillante.
Et il y a aussi la problématique des mineurs que vous essayez de gérer.
On essaye de se battre aujourd'hui, en tout cas cette année. On va essayer de voir avec la mairie, avec la communauté de communes, qu'est-ce qu'on peut faire auprès des jeunes qui sont en rupture familiale, parce qu'on en a. On est intervenu deux fois sur des cas de personnes mineures qui étaient mises à la porte pour des questions LGBTQI. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire à l'heure actuelle? On n'a pas le droit de les accueillir, nous, parce qu'elles sont mineures, ce serait un enlèvement. Par contre, s'il y avait un logement qui permettait de temporiser un petit peu la situation dans laquelle on peut mettre la personne quelques jours, et nous, de l'autre côté, de pouvoir les voir avec la famille pour temporiser les choses et recréer du lien et réintroduire de la médiation, ça pourrait éviter justement d'avoir des personnes qui soient envoyées dans des foyers où elles ne retrouvent pas leur place. Il y a eu deux cas de personnes bretonnes qui ont été mineures, qui ont été envoyées au refuge de Montpellier parce qu'il n'y a pas de refuge en Bretagne en fait. Il y a des équipes du refuge, mais il n'y a pas de refuge en Bretagne. Et donc non seulement elles perdent leur famille, mais en plus elles perdent leurs amis. Elles sont déracinées de tout lien social et on n'est franchement pas sûr que ce soit la bonne méthode.
Et comment vous faites justement pour essayer de tisser un réseau sur tout le territoire pour pouvoir être présent et être présente un peu partout ?
Déjà, il y a beaucoup d'entretiens individuels où en fait, c'est nous qui faisons le déplacement. Et normalement, cette année, on met en place des groupes de parole, donc au moins une fois tous les 4 mois, où on va essayer de déplacer le groupe de parole pour aller justement au plus proche des gens. C'est pour ça aussi que nous avons pris la décision que la marche des fiertés se fait cette année à Morlaix, mais si nous estimons qu'elle aura plus de poids l'année d'après dans une autre ville, dans un village, eh ben on n'hésitera pas à aller en ruralité la faire. Pour justement que les gens prennent pleinement conscience que c'est pas une fête, c'est pas qu'une fête, c'est revendicatif et que nous sommes là pour défendre les droits des personnes et s'il faut les défendre en ruralité, on ira en ruralité. Et que nous intervenons aussi, quand on intervient en entretien individuel, on intervient avec les structures qui sont en ruralité. Donc ça peut être les mairies, ça peut être les acteurs sociaux présents sur le territoire autour de la personne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a cherché à travailler avec la communauté de communes et la mairie de telle façon à s'intégrer dans le tissu déjà présent pour leur proposer des formations à l'accueil et à la prise en charge des personnes LGBTQI, et nous avons été il n'y a pas longtemps à la réunion annuelle des travailleurs sociaux du Finistère. On leur a proposé un atelier sur cette question-là et on a été débordés par les demandes justement d'être formés parce qu'aujourd'hui ils n'ont pas de formation et ils ne savent pas comment faire et ils ont peur de mal faire. Ce n'est pas une mauvaise volonté de leur part, c'est pas forcément de l'homophobie ou de la transphobie, c'est juste qu'ils ne savent pas faire et que des fois, du coup, ils se retrouvent un peu à prendre, on va dire, la patate chaude comme ça et waouh, qu'est-ce qu'on en fait, quoi.
Et dernière question, est-ce que finalement, il y a des problématiques qui sont particulières liées à la ruralité ?
Par rapport à la ruralité, déjà, ce qu'on voit, c'est que le territoire est beaucoup plus grand qu'on ne le pensait sur le fait d'agir. Ce qu'on rencontre globalement, c'est des problèmes de voisinage. On a eu d'ailleurs dans les groupes de parole des discussions sur ces sujets-là qui étaient la solitude en ruralité pour les personnes LGBTQI. On a pu faire évoluer cette discussion sur le fait que c'était pas tant la solitude qui posait un problème puisque les personnes hétérosexuelles, si je en vivais aussi, mais sur le fait de socialiser à égalité avec les personnes, avec des personnes hétéros. À savoir que vous pouvez sortir, une personne hétéro, si genre peut sortir ses poubelles le matin, croiser son voisin ou sa voisine et dire « Oh, mon mec ou ma nana m'emmerde ce matin, voilà. » Et il ne va rien se passer. Une personne LGBTQI, quand elle le fait, elle va toujours se poser la question de comment l'autre accepte le fait que je n'ai pas forcément la même sexualité. C'est une charge mentale et une peur qui est toujours présente, tous les jours, toutes les heures. Quoi qu'on fasse, quand on rentre dans un magasin, dans un commerce, surtout en ruralité, comment ça va être pris, comment ça va être accepté, est-ce qu'on va pas se faire insulter, chasser, violenter, verbalement, physiquement.
Pourquoi ce serait différent du coup en zone rurale qu'en zone urbaine ?
On pense bien souvent que les discriminations arrivent plus souvent en ruralité que dans les villes. Il y a plus de discrimination dans les villes qu'en ruralité. Par contre, quand il y a de la discrimination en ruralité, c'est beaucoup plus violent. On passe beaucoup plus vite à la violence physique, verbale et sexuelle. Parce que les gens qui agressent se sentent protégés, en fait, par le fait que la personne soit isolée. D'ailleurs, c'est le premier truc qu'elle va tenter de faire, c'est d'isoler encore plus la personne. En essayant de convaincre l'entourage proche d'adhérer à la discrimination. Donc voilà, on a vu des personnes homosexuelles, qu'elles soient lesbiennes ou gays ou homo, être obligées de déménager de chez elles à cause des voisins qui leur menaient une guerre et qui en fait leur rendaient la vie invivable pour les faire partir. Il faudra qu'on m'explique en quoi le fait que deux personnes qui vivent sous le même toit est un danger dans un quartier, dans un hameau, dans un village.
Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à Bretonne, Breton et Féministe sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous souhaitez contacter l'association Cube, je vous mets leur contact dans la description de l'épisode. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour un épisode avec Nina Montagnier, la réalisatrice du film « Être mère », trois très beaux portraits de femmes marins qui se questionnent sur la maternité et leur métier.
Bienvenue chez Bretonne, Breton et Féministe, le podcast qui explore les féminismes en Bretagne et qui décentralise les paroles. Pour cette sixième saison, rendez-vous tous les mois pour un reportage ou un entretien au micro d'Aurélie Fontaine ou Ariel Bonte. Aujourd'hui, pour ce 70e épisode, Aurélie s'entretient avec Vincent Doma, historien à l'Université de Rennes. Ce chercheur a travaillé sur la grande grève des ouvrières dans les fonderies de plomb de Poulaen Huelgoat dans le Finistère en février 1767. Et sur ce qui pourrait être une des premières grèves de femmes dans le monde ouvrier en France.
Bonjour Vincent, j'ai d'abord une première question pour bien comprendre le contexte. Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette fonderie et quels sont les enjeux économiques de cette industrie où travaillent une centaine de femmes ?
Alors les fonderies, du coup, c'est les installations où sont traités le minerai qui est déjà extrait des mines pour finalement en faire des lingots de plomb. Par contre, quelque chose qui est à noter, c'est que les femmes dont on va parler aujourd'hui ne travaillent pas aux fonderies. Elles travaillent aux laveries, qui sont des ateliers qui sont accolés directement aux fonderies de Poulaouen. Et donc voilà, elles ne travaillent pas dans les fonderies même, mais plutôt dans un autre atelier à côté. Ce sont des mines de plomb argentifère, de galène, c'est du sulfure de plomb, mais c'est du plomb qui contient une certaine proportion d'argent aussi, et qui sont exploitées depuis, apparemment depuis l'Antiquité, mais c'est surtout au XVIIIe et XIXe siècle qu'on les connaît tout particulièrement. Et donc il y a deux sites, sur la commune actuelle de Poulaouen et aussi à Huelgoat, mais actuellement sur la commune de Locmaria-Bérien. Chacun des deux sites miniers donc, a ses propres mines, ses galeries, etc. Et une fois que le minerai est extrait du sol, il est apporté à la surface et il est nettoyé dans des laveries où en fait il est tout d'abord concassé, séparé des diverses roches, des silices, des sables, de toute la matière inutile, et nettoyé aussi pour enlever justement toutes ces matières inutiles. Et ce n'est qu'après que le minerai qui sort de ces laveries est envoyé aux fonderies, qu'il ne se trouve que à Pulawen, en revanche. Mais les femmes dont on va parler, elles travaillent, elles, aux laveries, justement, qui sont sur chacun des deux sites. Leur fonction, c'est avant tout, donc, de... Le minerai sort de terre, de... oui, il sort de terre, il est plein de matières inutiles, de boue, de sable, de silice. Donc, elles vont tout d'abord les passer, il va falloir le concasser, donc ça se passe de deux façons différentes. Soit elle le broie au marteau, donc ça c'est l'une de leurs fonctions, ou elle le passe au bocard. Le bocard, c'est une roue hydraulique qui active un cam et ensuite des pilons et qui, eux, le broient le minerai aussi. Et donc les femmes qui s'occupent de ça seront appelées les casseuses. Et une fois que ce minerai a été broyé en toute petite proportion, en pratiquement à l'état de sable grossier, il est passé aux tables à laver. Et ces tables à laver, elles prennent la forme de bacs qui font 1 mètre de large sur 10 mètres de long environ, où un fin courant d'eau passe justement sur le minerai et il va emporter toutes les matières inutiles, les boues, les sables, les parties les plus légères et les moins valorisables, pour laisser seulement le métal. Et après, c'est ce métal que justement les femmes qui, dans ce cas-là, sont des laveuses, on les appelle comme ça à cette époque-là, elles vont récupérer cette matière-là et ensuite ce sera envoyé aux fonderies où il y a tout un processus métallurgique pour fondre le plomb. Les enjeux économiques de toute cette activité minière, au plus proche dans le secteur de Pulawen, Huelguat et des villages environnants, ça a un impact avant tout, on va dire, salarial. C'est-à-dire que ces mines sont très importantes par la quantité d'employés qu'elles ont. On compte environ 1 millier d'employés à la fin du XVIIIe siècle, au moment de l'apogée des mines et à peu près à la période de la grève dont on va parler. Et donc, elles emploient avant tout des Bretons localement, mais comme main d'œuvre de base, qui sont payés à la journée, qui ont un statut très inférieur par rapport aux autres responsables de l'entreprise, et qui surtout ne sont pas uniquement ouvriers. Généralement, ils travaillent à côté, ils ont leurs propres terres, des fermes, etc. Ils ont une activité agricole avant tout. C'est avant tout comme complément de revenus qu'ils vont travailler justement dans l'industrie locale minière et métallurgique. Plus largement, à l'échelle bretonne, ces mines, cette entreprise minière est importante à échelle industrielle parce que c'est un site industriel assez important, ce qui d'ailleurs nous permet de nous rappeler que justement la Bretagne était très importante en termes d'industrie, ou plutôt de pré-industrie, on devrait dire, au XVIIIe siècle. Et justement, les mines de Pulawen Huelguat, c'est la deuxième entreprise industrielle de Bretagne, après, ou les deuxièmes manufactures, on devrait dire, après les arsenaux de Brest. Et ces mines ont aussi un grand intérêt à l'échelle nationale, parce que c'est la deuxième entreprise minière de toute la France, après les mines de charbon d'Anzin, dans le nord de la France. Et elles sont très importantes, tant par la production de plomb, c'est pratiquement les seules mines de plomb à cette époque dans tout le pays, et aussi pour l'introduction de technologies particulières à l'exploitation des minerais.
Et est-ce que vous pouvez nous parler des conditions de travail de ces femmes ?
Leurs conditions de travail, globalement, sont assez difficiles parce qu'elles sont au plus bas de l'échelle socio-professionnelle. Il faut savoir qu'elles travaillent 16 heures en été et 8 heures en hiver. Tout simplement, elles restent aussi longtemps qu'il fait jour à cette époque-là. C'est des conditions de travail. Alors, certes, c'est moins dangereux comme travail que le travail sous terre ou dans les fonderies. Il y a moins d'accidents aux laveries, proportionnellement. Mais c'est néanmoins des conditions de travail tout à fait difficiles parce qu'elles passent toute la journée les mains plongées dans de l'eau glaciale et corrosive. Vous avez aussi, pour celles qui sont affectées au cassage des minerais, elles vivent dans un environnement, enfin, travaillent dans un environnement qui est très poussiéreux, donc on a énormément de cas de silicose qui apparaissent. En plus de ça, bon, naturellement, comme elles sont au plus bas de l'échelle professionnelle, leurs salaires sont très faibles. On peut estimer qu'elles sont en moyenne payées 3 fois moins que les cadres locaux, jusqu'à 10 fois moins que les ingénieurs et directeurs, et puis absolument pratiquement rien par rapport aux actionnaires propriétaires qui, eux, ne vivent pas du tout en Bretagne. Et leur tâche est pourtant essentielle au travail, justement, à toute cette chaîne productive. Et généralement, on attribue, on met en, à ce poste plutôt des femmes, parce qu'à l'époque, ils considéraient que justement, elles étaient plus douées d'adresse et de minutie, et ces fonctions justement du nettoyage des minerais demandaient peu de force brute, mais beaucoup plus de patience et de travail plus minutieux. Alors, ça, c'est surtout pour le lavage. Après, pour le broyage, justement, celles qui utilisent des marteaux, c'est des marteaux particulièrement lourds pour broyer les roches. Donc, c'est très exténuant et ça demande aussi énormément de force brute, en fait.
Et donc, en février 1767, il y a une grève des femmes ouvrières sur ces sites-là. Et est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de cette grève-là? Pourquoi elle arrive à ce moment-là en particulier? Pourquoi ce sont les femmes, en fait, qui se mettent en grève?
Avant de rentrer dans le détail de cet événement, je dirais bien à préciser, c'est que malheureusement, on a très peu de données sur cette grève de 1767. On a très peu de données. Les seuls textes qui en parlent, ce sont les lettres de la direction parisienne vers ses responsables locaux. Donc, bien évidemment, le point de vue est extrêmement biaisé. Et on n'a aucun témoignage tant de la direction locale que, bien sûr, des propres travailleuses. Ce qu'on sait, en revanche, à partir de ces quelques lettres, de ces quelques passages, c'est que en janvier 1767, déjà, il y a de fortes gelées hivernales qui font que tout le travail aux laveries, justement, est complètement paralysé. Et la direction locale en profite à ce moment-là pour dire, pour baisser le salaire des casseuses, tout d'abord. Et ils le font par prétexte que les casseuses et les laveuses qui travaillent aux laveries de Locmaria-Bérien ou du Helgoat, en revanche, sont moins payées. Donc à ce titre-là, ils considèrent que c'est de justice que de baisser le salaire des casseuses de Poulaouen. Alors, ce qu'on peut comprendre à travers les lettres, c'est que justement, elles n'acceptent pas et elles décident de quitter le travail. Et peu de temps après, elles sont aussi rejointes par les laveuses de Poulaouen, encore une fois. Alors au début, la direction de la compagnie en fait peu cas, n'est pas très inquiète. Elle considère qu'il ne s'agit que d'un caprice ou d'une révolte, ce sont les termes qu'ils utilisent, qui sera vite réglé et qu'elles reviendront vite au travail. Sauf qu'au bout de 3 ou 4 semaines, elles commencent à s'inquiéter, déjà parce que à force de ne pas nettoyer le minerai, ils commencent à manquer de matière à envoyer aux fonderies. Et aussi parce que le gel, c'est la fin du gel, donc du coup, au moment où l'activité pourrait reprendre, eh bien, elle ne reprend pas. Et on apprend seulement début février, que à peu près à environ 4 à 5 semaines après le début du conflit, que finalement, la direction locale a été obligée de les rappeler au même salaire, et que du coup, techniquement, c'est une victoire de la grève. Il est à noter aussi qu'on n'utilise jamais dans ces lettres le mot « grève », parce qu'il n'existe pas pour désigner un refus de travailler pour des raisons de revendication salariale. À cette époque-là, le terme n'existe pas. Pourtant, quand on lit à travers les lettres, ça correspond exactement à ce qu'on entend aujourd'hui par une grève.
Et du coup, quelle a été la réaction des patrons? Est-ce qu'ils s'attendaient à ce que des femmes se révoltent?
Est-ce qu'ils s'attendaient à ce qu'il y ait une forme de résistance ou de grève? Peut-être, d'autant qu'ils sont habitués, ils sont les responsables tant locaux que centraux à Paris, sont habitués à être souvent en confrontation avec leurs ouvriers et ouvrières de Poulaouen et du Helgoat. Et donc, quand ils lancent ça, en fait, ils s'attendent à ce que ça passe assez rapidement, qu'ils fassent vraiment, ils parlent de caprice, ils les considèrent comme relativement paresseux et vont même dans les lettres à les traiter d'animaux. Clairement, on est dans un moment où le mépris est extrêmement fort, notamment parce que là, voilà, les seuls textes qu'on a à ce propos, c'est ceux de la direction des propriétaires actionnaires parisiens, qui parlent justement de ces ouvriers bas bretons. On a un mépris social qui est évident entre la plus haute aristocratie et le plus bas peuple, un mépris culturel aussi qui se rajoute à cela, c'est-à-dire que ce sont des Français vraiment dans une optique très, en plus on est à l'époque des Lumières, donc intellectuellement très, qui se pensent très supérieurs, contrairement au bas peuple obscurantiste, etc. Et aussi très certainement un mépris de genre vis-à-vis de ces ouvrières qui, en l'occurrence, sont encore plus bas placées par rapport aux fondeurs ou aux mineurs. Et à la vérité, dans les lettres, c'est difficile de faire la part entre ces trois formes de mépris qui sans doute se confondent dans leur langage. Mais semble-t-il qu'ils pensaient que ça ne durerait pas, cette résistance, cette grève, et qui gagnerait assez rapidement.
Et ces femmes-là, elles ont maintenu cette grève Donc, qu'est-ce qui a permis le maintien de cette grève-là et qu'est-ce qui leur a permis d'obtenir l'augmentation salariale qu'elles demandaient ?
C'est assez difficile à dire. Encore une fois, les sources sont limitées. Il semblerait, et un élément intéressant à noter, c'est qu'elles aient reçu le soutien d'une partie de la communauté rurale, à savoir que le général de paroisse de Poulaouen, en gros, c'est le responsable civil des biens de l'église de Poulaouen, et qui, en fait, assez simplement, est un petit peu l'élite rurale et paysanne de Poulaouen. Cet homme-là, ainsi que tous les personnages de cette même classe de la petite élite rurale, sont très opposés à la Compagnie des Mines de Basse-Bretagne. Ils sont vraiment une opposition extrêmement forte. Et il semblerait que, justement, l'élite rurale, du coup, ait appuyé ces ouvrières en grève. Et apparemment, il y aurait peut-être même jusqu'à une caisse de grève, enfin une forme de caisse de grève. Il s'est dit à un moment dans une des lettres que le peuple de Poulaouen déteste tellement la Compagnie des Mines qu'il pourrait presque payer les ouvrières à rester chez elles pour tenir plus longtemps la grève. Sans doute aussi, ces femmes ont réussi à tenir un peu plus longtemps parce que justement, comme la mine finalement et l'emploi industriel est une activité salariale secondaire pour elles par rapport à leurs propres terres et leur propre production agricole, bah, finalement, c'était pas si urgent de retourner au travail parce qu'ils avaient toujours de quoi subsister.
Et est-ce que les ouvriers de la fonderie, eux aussi, se sont mis en grève par solidarité ?
Alors, semble-t-il non. Et semble-t-il même, d'après une mention qui est faite dans les lettres, il semblerait que la direction locale ait essayé de manipuler les hommes des fonderies et des autres postes pour encourager les femmes à retourner au travail. Il s'agit souvent en fait des épouses des mineurs ou des fondeurs, parce que ce sont les mêmes familles qui habitent localement, qui envoient le père ou le fils à la mine, à la fonderie, et l'épouse ou la fille aux laveries ou aux casseries. Et donc, il semblerait qu'ils aient été, que la direction ait essayé de les utiliser dans ce sens-là. On n'en sait pas plus, cependant. Mais on est à peu près sûr, en revanche, que les hommes n'ont pas participé à ce mouvement de grève. Il est intéressant de noter d'ailleurs que quelques mois après la victoire des femmes de Poulaouen, ce sont cette fois-ci les hommes travaillant aux fonderies de Poulaouen qui se mettent exactement de la même façon en grève pour exiger une augmentation de salaire. Et cette fois-ci, la compagnie qui sait de quoi elle doit s'en tenir accepte immédiatement leurs revendications. Mais ça, c'est quelques mois après. Pendant le mouvement même, on a très peu d'informations.
Dans un article publié en 2021 pour le média Le Peuple Breton, vous écrivez qu'à cette époque, on essayait de réduire en fait l'autonomie professionnelle des femmes. Et est-ce que finalement, cela arrangeait les responsables de la fonderie qu'il y ait cette grève-là ?
Je pense que c'était quand même un problème pour la compagnie parce qu'elle avait besoin de cette main-d'œuvre qui par ailleurs était sous-payée et donc c'était d'autant plus rentable pour la compagnie. Donc, elle avait besoin de cette main-d'œuvre pour avoir cette tâche intermédiaire du lavage et du cassage des minerais. Et donc, c'était parfaitement nécessaire. Et d'ailleurs, au cours de la grève, aussi une autre indication semble montrer qu'ils essayent à un moment d'employer des manœuvres pour les remplacer, donc en fait des gens payés à la journée, dont on ne sait pas si ce sont des hommes ou des femmes locaux, mais en tout cas des genres de casseurs de grève, on pourrait dire ainsi, et que ça ne fonctionne pas, ou c'est pas assez rentable, ou... Bref, pour une raison ou une autre, ça ne fonctionne pas. Donc, certes, il y a désir de réduire leur autonomie, mais en l'occurrence, je pense que c'est surtout un désir de rogner un petit peu sur les salaires autant que possible selon la situation. Après, en soi, leur autonomie professionnelle, dans le cas des femmes des laveries et des casseries de Poulaouen, est déjà très faible parce que même dans les ateliers, elles sont sous la direction d'un cadre qui est un homme à chaque fois et qui organise le travail. Elles sont vraiment au plus bas de l'échelle socio-professionnelle à ce moment-là. Alors que dans d'autres cas, dans d'autres situations pré-industrielles, justement, elles peuvent avoir beaucoup plus de marge de manœuvre, beaucoup plus d'autonomie entrepreneuriale parfois même. Là, elles sont déjà dans une situation qui est très, très basse et très peu reconnue.
Et toujours dans cet article, vous écrivez que cette grève serait peut-être du coup une des premières grèves féminines en Europe. Et qu'est-ce qu'il en est ?
Eh bien, à ma connaissance, c'est la première qui soit connues ou recensées ou documentées. Et justement, j'avais travaillé là-dessus avec mon amie Coraline Beuvier, qui est historienne également et qui s'est beaucoup plus penchée là-dessus, sur l'histoire générale des mouvements de résistance ouvrière féminine. Et apparemment, il n'y en a pas d'autres que l'on connaisse qui soient antérieures dans l'histoire, pas seulement européenne, mais en fait du monde. Mais c'est sans doute un effet de source, de documentation, ou juste, soit il n'y a pas de documentation parce qu'il n'y a pas de documentation, soit ce sont des événements très peu connus. Par exemple, l'histoire des mines de Pulawen-Huelguat en général est très peu connue, et de cet événement-là, encore moins. Peut-être que dans une autre mine à l'autre bout de l'Europe ou dans une autre usine à l'autre bout du monde, il y a eu un mouvement antérieur, et c'est très difficile à dire. Mais je pense pouvoir affirmer que très probablement, il y en a eu d'autres avant, mais juste, on n'en a pas de source. Par exemple, en faisant des recherches justement sur cette question de l'historicité des grèves, j'ai appris que la première grève qu'on ait recensée de toute l'histoire de l'humanité, c'est sur les chantiers des pyramides de Khéops. Donc du coup, s'il y en a déjà des phénomènes qui s'apparentent à des grèves il y a presque 5000 ans, par la suite, il y en a eu énormément, et par la suite, il y a eu énormément aussi de mouvements de grèves spécifiquement féminines. C'est d'autant plus probable qu'il y ait eu d'autres parce que à travers grande partie de l'histoire, et puis dans presque toutes les sociétés minières, occidentales en général, et dans toutes les villes qui sont orientées vers l'industrie minière, on voit souvent que ce sont les femmes qui sont au poste, justement, à ce poste de laverie, de concassage et de tri à la sortie des mines. Si vous regardez Germinal, pareil, une grande partie des femmes travaillent à l'extérieur, à la surface, juste à la sortie de la mine. Et donc, c'est très probable que dans d'autres situations, dans d'autres entreprises minières ou dans d'autres, à d'autres périodes, on ait pu avoir d'autres formes de résistance, d'autres formes de grève féminine.
Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme de diffusion préférée. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Instagram, Facebook et aussi sur Substack pour recevoir notre newsletter mensuelle bretonne et féministe. Sinon, rendez-vous le mardi 2 décembre pour un entretien avec l'autrice Ludzine Briand qui nous parlera Anthologie féministe bretonne, un livre coécrit avec une vingtaine d'autres autrices.
Nul Adonis, nul artifice, ni loi ni dieu, elle sait y faire. Brin nihiliste, mélancolique, parfois l'envie se foutre en l'air. Assise sur son lit, le bleu dans le gris, elle est différente, c'est sa manière. Elle n'a pas choisi, et quand on lui dit que ce n'est pas là la chose à faire, soins intensifs à deux ses moins tristes, dans son cerveau deux hémisphères, le gai et le triste, un jeu d'artifice, pouvoir aimer, comment le faire, la peur de ne pas savoir où aller, qui nous attache à cette. Elle dit qu'elle aime, elle dit
يعني في ناس كتير ماتت مالهاش ذنب كتير جدا. ايه ذنبهم؟ يعني في 9 ماتوا عند مكتب الارشاد منهم عايش ابن واحد صاحبي واخد طلقة في دماغه. دايرة احنا مش فاهمين حاجة.
انا زي سنوبي ولد غلبان كنت مشعبط في الميدان. انا زي سنوبي ولد غلبان كنت مشعبط في الميدان وكان ويايا يفضل. شنط وإقلام ونقط وكان ويايا يفط. شنط وإقلام ونقط فراشات مرسومة بورد وقطط بتنطر برد. فراشات مرسومة بورد وقطط بتنطر برد. خل خال بيرقص للولد وكفوف بتعمر بلد. خل خال بيرقص للولد وكفوف بتعمر بلد وكان ويايا فلان وفلان. وانا زي سنوبي ولد غلبان
زي سنوبي ولد غلبان كنت مشعبط في الميدان. انا زي سنوبي ولد غلبان كنت مشعبط في الميدان
وكان ويايا يفط. شنط وإقلام ونقط
وكان ويايا يفط. شنط وإقلام ونقط
فراشات مرسومة بورد وقطط بتنطر برد.
فراشات مرسومة بورد وقطط بتنطر برد. ونفخنا غيوم
بالسكر ولعبنا شعب وعسكر وياهم دهنا الهوى ألوان وانا زي سنوبي ولد غلبان انا
زي سنوبي ولد غلبان كنت مشعبط في البدان
got confusion all over the land. Mother against daughter, father against son, the whole thing is getting out of folks wouldn't have to suffer if there was more love for your brother. But these are trying times. Got the riots and the ghetto, and it's all around. A whole lot of things that's wrong going down. I don't understand it. My point of view, I remember somebody said, do unto others as you would have them do unto you. And then folks wouldn't have to suffer.
Of our discontents upon us, desolate apostles slurping strong bow at the crossroads. We are nothing but an eating mouth, esophagus colossal. We won't stop until we've beaten down the planet into pellets before the interstellar mission to inflict more terror. It's killing me, it's killing me, it's filling me. I'm vomiting, it's stilling me. Everything is fine, really, silly me. Poor kids shot dead, poor kids locked up. Poor kids saying this is the future that you left us. Stocked up lunch meat processed punch from an unclean fat cat. Tasty, tasty poison, carcinogenic, diabetic, asthmatic, epileptic, post-traumatic, bipolar and disaffected, atomized, thinking with we're engaged, when we're pacified, staring at the screen so we don't have to see the planet die.
What we gonna do to wake up? We sleep so deep it don't matter how they shake us. If we can't face it, we can't escape it. But tonight the storm's come.
She's screaming, the drones turned a beautiful boy into a pile of bones. Nobody to bury, nobody is home. Running from war, the boat's full, the boat's sinking a mile offshore. No beds in the hospitals, our minds are against us. Imagine your daughter was gunned down defenseless. On her way to school there'd be uproar, but she's collateral damage, it doesn't matter. Now if our kids are fine, that's enough for us. You can't love into a vacuum, there's got to be a limit. Welcome to the biggest crime that's ever been committed. You think you and I are different kinds, you caught up in specifics. You and I apart are easier to limit. The illusion so complete it's impossible to bring it into focus. Cinematic stock footage, you think people but a locust, uniform men keep unleashing explosives.
What we gonna do to wake up? We sleep so deep it don't matter how they shake us. If we can't face it, we can't escape it. But tonight the storm's come.
Tunnel vision, work, drinks, heartbreak. You can't face the past a dark place. Can't sleep, can't wake, sitting in our boxes, notching up our victories as other people's losses. Another day, another chance to turn your face away from pain. Let's get a takeaway. You meet me in the pub a little later, we'll say the same things as ever. Life's a waiting game. When we gonna see that life is happening? And every single body bleeding on its knees is an abomination. And every natural being is making communication. And we're just sparks, tiny parts of a bigger constellation. We're minuscule molecules that make up one body. You see, the tragedy and pain of a person that you've never met is present in your nightmares and your pull towards despair. And the sickness of the culture and the sickness in our hearts is a sickness that's inflicted by this distance that we share. Now it was our bombs that started this war, and now it rages far away so we dismiss all its victims as strangers. But their parents and children made dogs by the danger. Existence is futile, so we don't engage. But it was our boats that sailed, killed, stole and made frail. It was our boots that stamped, it was our courts that jailed. And it was our fucking banks that got bailed. It was us who turned bleakly away, looked back down at our nails and our wedding plans. In the face of a full force gale, we said, well, it's not up to us to make this place a better land. It's not up to us to make this place a better land. Justice, justice, recompense, humility. Trust is something we will never see. Till love is unconditional, the myth of the individual has left us disconnected, lost and pitiful. I'm out in the rain, it's a cold night in London, and I'm screaming at my loved ones to wake up and love more. I'm pleading with my loved ones to wake up and love more.
Yeah. tasting my